Donc je disais que oui, Dieu est dans un endroit, une position, un état, c'est un peu une devinette, hein, où il désire amener l'homme. Quel est cet endroit, ou position, ou état? Alors Dieu n'a pas vraiment un cœur brisé contre lui, il est, mais c'est vrai que c'est un état dans lequel Dieu aime que nous soyons. Mais sinon, quelqu'un d'autre? La dépendance, assis, accroupi. Non, très bien. Non, c'est bien. Donc Pascal, elle a regardé mes notes avec ça. Non, c'est le repos. Donc Dieu, on peut dire qu'il est dans un endroit de repos, dans une position, dans un état de repos, et il a ce désir d'amener l'homme aussi dans le repos. C'est un bon thème, non? Vous êtes content? C'est vrai, tout le monde aime ce mot. C'est vrai, il est plaisant à entendre et encore plus à expérimenter. Là, on ne va pas parler vraiment des doigts écartés sous les cocotiers au bord de la mer bleue, mais on peut dire que c'est Dieu le premier qui a pensé au repos. Ce n'est pas tel gouvernement avec les 35 heures ou les congés payés. Mais c'est Dieu le premier, bien sûr, qui a pensé, et c'est ce qu'on va voir ça dans la Bible. Et c'est un repos qui est non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme et l'esprit. Et malgré la chute de l'homme, parce que Dieu a créé toute chose bonne et parfaite, mais il y a une tache sombre un peu dans le tableau, c'est la chute de l'homme et le péché qui est entré dans le monde et qui a un peu changé la donne. Malgré tout, il y a cette possibilité d'entrer dans le repos de Dieu, parce que Dieu n'est pas limité aux échecs de l'homme, et il a toujours un moyen, une solution. Et dès le début, il nous le montre dans la Bible. Donc dans Genèse chapitre 2, nous allons voir le premier endroit où il est parlé du repos. Genèse chapitre 2 et verset 2. Donc chapitre 1, c'est le récit de la création. Et donc chapitre 2, verset 2. Verset 1, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Verset 3, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc en six jours, Dieu a créé tout ce que nous voyons, l'univers, et le sixième jour c'était l'homme. Et le septième jour, donc il a pris un jour, en quelque sorte, pour se reposer. Donc c'est un moment important. Bien sûr, Dieu n'était pas fatigué d'avoir créé le monde. Mais en fait, ça voulait dire que son œuvre était achevée. Et donc, il n'avait plus besoin de continuer. Il a simplement stoppé son activité créative. Il était content. Au sixième jour, il a dit que c'était très bon, tout ce qu'il avait fait. Et donc, il a béni au verset 3 ce jour. D'abord, pour le mot hébreu du repos, ben c'est Shabbat. Et c'est S-H-A-B-A-T-H en hébreu. D'où le mot sabbat après. Et donc, c'est repos, cesser. Donc il n'y a rien de plus au niveau de la signification. Et ensuite, de bénir, au verset 3, c'est Barak, B-A, accent circonflexe, R-A-K. Et ça veut dire s'incliner, s'agenouiller, louer, demander une bénédiction. Et donc, quelque part, Dieu, il n'était pas simplement satisfait de ce qu'il avait créé, mais en fait, il voulait que tout ce qu'il avait créé soit rempli de lui, de sa personne. Donc, pour ça qu'il s'est arrêté et que ce septième jour est si important. Et sanctifier, donc, aussi, c'est Kadash, Q, A, accent circonflexe, D, A, accent circonflexe, S, H, et ça veut dire être pur ou dévoué à Dieu. Ça, c'est l'idée première. Donc, ensuite, en Exode 16, c'est là que nous voyons la première mention du sabbat pour l'homme. Alors, il y a plusieurs choses qui se sont passées depuis. Il y a eu le déluge, et puis ensuite la repopulation de la terre par Noé et ses enfants, et puis l'appel d'Abraham, et ensuite donc Jacob qui est arrivé avec ses enfants, Joseph, qui va en Égypte, et ensuite le peuple qui devient esclave en Égypte. Donc il y a pas mal de choses qui sont passées. Et donc là, ils sont sortis d'Égypte et ils sont dans le désert. Donc Exode 16 et au verset 23 à 30. C'est la première mention donc du sabbat pour l'homme. Et Moïse leur dit, ce que l'Éternel a ordonné, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Alors, ce qu'il faut savoir, auparavant, Dieu a donné une nourriture pour le peuple de Dieu, parce qu'il était dans le désert, c'est la manne. Et déjà, il y a un enseignement sur le fait de s'attendre à Dieu, que Dieu pourvoit si nous mettons Dieu en premier. Parce que prendre la manne, c'était quelque chose que Dieu faisait descendre chaque matin. Les gens devaient la ramasser pour la famille, faire du pain et tout ça, mais ils ne devaient pas en stocker pour le lendemain, sinon ça pourrissait. Ils en ont fait l'expérience, il y en a qui en ont mis de côté, il y a eu des vers et c'était infecté. Et par contre, le sixième jour, ils disaient prenez-en pour deux jours, parce que le septième jour, il n'y en aura pas et puis ce sera un jour de repos. Donc Dieu il enseigne son peuple sur le fait que s'il nous demande, par exemple, ce jour de repos où on ne fait rien, eh bien, il pourvoit pour ce dont on a besoin. Et il y a des gens qui, le sixième jour, n'ont pris que la ration de la journée. Et le lendemain, ils se sont levés, il n'y en avait pas. Donc, c'était une leçon pour eux aussi de simplement suivre ce que Dieu disait. Ils étaient bénis ainsi, et par contre, s'ils suivaient eux leurs propres indications, leurs propres pensées, ben ça marchait pas, hein, ça marchait pas. Et donc là, il nous a parlé donc du sabbat pour l'homme. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir. Donc il parlait de la manne. Mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Et cela ne devint point infect, comme les autres jours pour ceux qui en avaient gardé. Et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Pendant 6 jours, vous en ramasserez. Mais le septième jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. Et donc, comme je vous ai dit, il y en a quelques-uns qui sortirent pour en ramasser le septième jour, ils n'en trouvèrent point. Bon, l'Éternel reprend aussi son peuple, hein, parce que comme il n'écoute pas bien. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au sixième jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte du lieu où il est au septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. La maison, alors j'ai dit jusqu'à 30, hein, voilà. Et aussi dans Exode, donc 20, versets 8 à 11. Donc là, c'est Moïse qui est sur la montagne du Sinaï. Il reçoit la loi, les commandements et puis aussi après toute la description pour le tabernacle. Et donc dans le décalogue, les 10 commandements, le sabbat est réitéré par Dieu. C'est le 4e commandement du décalogue. On va regarder ça. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Donc, c'est vrai que Dieu nous dit que pendant 6 jours, on travaille. On est dans un monde qui est tel ce qu'il est, et avec la malédiction du péché, il est dit que à la sueur de notre front, on devra travailler. Donc Dieu n'enlève pas ça, mais il nous donne donc ce 7e jour, ce repos. On verra par la suite que maintenant, avec la venue de Jésus-Christ, ce repos-là, c'est pas un jour précis, même si c'est saint d'avoir un jour hebdomadaire et tout ça, mais qu'il y a aussi un repos qui en fait continue dans notre âme par la présence de Dieu. Et donc on travaille pendant 6 jours. Faut pas penser qu'en étant sur terre, cette chose-là nous sera enlevée. Ce sera qu'au ciel qu'il y aura le repos éternel. Et il faut donc bénir Dieu pendant ces 6 jours où Dieu nous permet de travailler. Et mais il y a aussi donc ce 7e jour qui doit être mis à part pour Dieu. Et je trouve qu'il y a aussi un but humanitaire dans ce que Dieu donne, parce que c'est pas simplement pour le peuple de Dieu, mais c'était aussi pour les serviteurs. Tout le monde est à la même enseigne, les serviteurs, l'étranger, et même l'animal. Il devait aussi se reposer. Donc ça montre la bienveillance de Dieu envers tous les hommes. Bien sûr, il a choisi un peuple pour se faire connaître, et c'était le but premier, c'était d'avoir un peuple pour montrer la lumière aux autres nations, pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir montrer qui est le vrai Dieu. En quelque sorte, ce sabbat, c'est un moyen de témoignage. Et pour tous ceux qui se retrouvaient donc au milieu du peuple de Dieu, eh bien, ils bénéficiaient de la même bénédiction qui était ce repos hebdomadaire. Et on en est au bénéfice encore aujourd'hui, parce qu'on est une société post-chrétienne, mais on bénéficie de ça. Moi, on peut penser à certains régimes qui ont essayé de rayer toute, comment dire, comme une réhabilitation, en particulier les régimes totalitaires, communistes, où on devait rayer toute idée de la religion, et il n'y avait aucun jour de repos, où on a entendu ces histoires-là, que ce soit au Cambodge et tout ça, avec les camps de réhabilitation où les gens devaient travailler. Et donc, il n'y a plus, quand Dieu est enlevé, il n'y a plus le respect de l'homme, on va dire. Alors que là, Dieu est en souci de chaque homme et même des animaux, et aussi de la terre, parce que dans un autre de la terre qu'on cultive, parce que dans Lévitique 25, chapitre 1 à 5, il était demandé au peuple de Dieu de faire reposer la terre tous les 7 ans. Donc 6 ans, on travaillait les champs, la terre, et après la 7e année, c'était une année de jachère. Où la terre devait aussi reposer, parce que en même temps Dieu savait que il a mis dans la création ce besoin de repos. Et donc on voit que c'est un jour consacré à Dieu, un jour où l'homme arrête de s'occuper de ses soucis et il pense à Dieu. Donc c'est consacré à Dieu. Exode 31, versets 12 à 18, encore, il nous est parlé de l'importance d'observer ce sabbat. C'est un signe entre Dieu et son peuple, pour le monde extérieur aussi. Il était dit que l'homme ne devait faire aucun ouvrage, donc quelque part ça nous force à nous concentrer sur la bonne chose qui est Dieu, se rappeler. À chaque fois il est réitéré qu'en 6 jours Dieu a créé la terre, et que 7e jour il s'est reposé. Donc on peut se dire, ben, tout ce que j'ai, Dieu, en fait, ça vient de toi. Parce que c'est toi qui as créé tout ce que je peux manger, la santé que je peux avoir, ou les, chaque jour que je peux vivre, la santé que j'ai ou que je n'ai pas, peut-être aussi. Mais chaque jour que Dieu nous donne de le vivre, c'est Dieu qui l'indique. Dans Psaume 90, et verset 12, il nous est dit de compter nos jours. Il est dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, parce que notre temps sur la terre est compté. Ça va être 70 ans, ça va être 20 ans, 5 ans, 90 ans. Mais on sait qu'on a un passage court sur cette terre. Et c'est grâce à la promesse de Dieu aussi dans Genèse chapitre 8 et verset 22 où il y a le même mot, sabbat. Là, ça veut dire cesser. C'est lorsque Noé sort de l'arche et Dieu dit que plus jamais il n'y aura de déluge. La terre ne sera pas détruite, plus jamais par un déluge comme il y a eu. Et à cause donc de cette promesse, eh ben, on peut dire qu'aujourd'hui, on voit le jour se lever et le soleil se coucher jusqu'au moment où Dieu en décidera autrement, parce que la terre ce n'est pas éternelle, elle passera un jour. Verset donc 8-22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donc ça, c'est ce même mot. Donc c'est bien de aussi, quand on s'arrête, quand on considère toutes ces choses, ce que je vis aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'éternel. Je suis pas en train de construire mon propre royaume, quoi. Il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Donc le sabbat, c'était aussi donc une célébration à Dieu. C'était aussi une fête en commun. Il y avait des sacrifices qui étaient faits ce jour-ci, en particulier. Il y avait, je crois, deux agneaux qui étaient sacrifiés en plus des sacrifices ordinaires. Et donc, c'est important dans nos vies d'avoir cette célébration à Dieu, où justement, oui, nous le remercions pour ses bienfaits. Et dans le temps de l'Église aujourd'hui, eh bien, il y a la célébration en commun, et qui est en général le dimanche, bien sûr, mais tous les moments où la parole de Dieu est prêchée, c'est un moment important aussi où ensemble on peut s'édifier, recevoir la parole de Dieu et puis être encouragé et par la parole de Dieu, et de pouvoir connaître Dieu plus profondément. C'est un jour aussi dans Lévitique chapitre 23 et verset 32, un jour où l'homme humilie son âme. Et ça aussi, c'est un point important. Parce que si on ne s'arrête pas dans nos vies, eh bien, on peut penser que, oui, qu'on peut tout contrôler, ou on est maître de tout, on est nous-mêmes notre propre Dieu. Et le fait de s'arrêter et de reconsidérer Dieu et de remettre Dieu à sa place, eh bien, ça nous humilie, bien sûr, parce que nous, nous sommes qu'une créature et que Dieu est Dieu. Et donc, on accepte l'autorité qu'il a sur nous. Et c'est aussi un rafraîchissement, une adoration tranquille. Et le dernier point aussi, c'est dans Deutéronome chapitre 5 et verset 15. Le sabbat était là aussi pour rappeler la délivrance que Dieu a opérée pour son peuple lorsqu'il était en Égypte. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Donc il y a vraiment un lien entre le fait d'observer ce jour de repos et se rappeler donc que Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte, et après de manière pour nous, l'Égypte représente le péché, et nous avons été par Jésus-Christ délivré de l'emprise du péché, parce que lorsque nous avons cru en lui. Donc Dieu se présente là comme Dieu sauveur. Peut-être jusqu'à maintenant, dans l'adoration qu'on avait à Dieu, c'était Dieu, mon créateur, Dieu qui est au-dessus de toute chose, qui est mon autorité, mais là, Dieu est mon sauveur. Et donc, adorer Dieu pour cela. Et on va voir un passage encore dans l'Ancien Testament, c'est dans Ruth, où il est parlé justement de cette délivrance et de la rédemption, le rachat de Dieu pour l'homme. Donc dans Ruth. Après Juge. Juge Ruth. J'espère que ce ne sera pas trop décousu, parce que j'ai plusieurs pistes, donc j'essaie de tout relier. Donc dans Ruth, chapitre 1, et d'abord, Ruth, c'est sur une autre page, voilà. 1:29. Il n'y a pas 29, alors 1:9, 19. 9. Oui, c'est pour voir si vous suivez. Donc, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa. Et, bon, elles élevèrent leur voix et pleurèrent. Donc, un peu pour donner le contexte, Ruth, c'était une jeune Moabite. Donc, pour être plus clair, elle ne faisait pas partie du peuple de Dieu. Ce qui s'était passé, c'est que Naomi et son mari et ses enfants étaient partis d'Israël parce qu'il y avait une famine et étaient allés dans le pays de Moab, ce qui était interdit par la loi, donc c'était une désobéissance. Leurs fils se sont mariés donc à Orpa et Ruth. Ce qui s'est passé, c'est que le mari de Naomi est mort, les maris de Orpa et Ruth sont morts, et donc Naomi se retrouve veuve avec ses deux belles-filles veuves. Donc, elle décide de retourner à Bethléem et elle dit donc à ses deux belles-filles, retournez chez votre mère. Enfin, et puis, vous êtes assez jeune, vous allez retrouver un mari et voilà, c'est mieux pour vous. Je veux que vous ayez du repos. Et donc, il y en a une, toutes les deux, elles pleurent hein, de toute manière, mais il y en a une, Orpa, elle reste, elle retourne chez sa mère. Mais Ruth s'attache à Naomi parce qu'en fait elle a discerné chez Naomi, même si il y a eu une période de désobéissance chez Naomi, que son Dieu était différent des dieux qu'elle pouvait avoir, quoi. C'est touchant à chaque fois cette histoire parce que ça parle du fait que Dieu parle à tous les êtres humains, où qu'ils soient, dans quelque culture que ce soit, Dieu est juste et lorsqu'on sera devant lui, il n'y aura aucune excuse. Il parle à travers sa création, il parle à travers notre conscience et donc quand on cherche vraiment la vérité, Dieu nous parle. Et puis de toute manière, c'est Dieu qui cherche l'homme en premier de tout temps, c'est ce qu'on voit. Et dans les témoignages qu'on peut entendre, dans des pays où l'évangile est très peu prêché ou interdit, on a pu entendre des témoignages de gens qui se demandaient quelle était la vérité. C'était pas simplement quelque chose une façade ou quelque chose à suivre et qui soit culturel. Et Dieu s'est révélé à ces gens-là, parfois par de manière assez extraordinaire, par des rêves, par des songes, par de la littérature, par la venue de gens. Et donc là, Ruth, elle veut répondre, en fait, à cette initiation de Dieu par l'intermédiaire de Naomi. Et elle va suivre donc Naomi à Bethléem. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions des veuves à cette époque-là n'étaient pas très réjouissantes. Donc le mariage était vraiment un endroit de sécurité, quoi. Donc c'est pour ça que Naomi a cette réaction. Mais plus tard, ensuite, dans, au chapitre 3, au verset 1. Donc là, maintenant, ils sont à Bethléem. Et Ruth s'est mise donc à travailler pour assurer ben, leur, leur permettre de vivre à toutes les deux. Naomi est, est vieille, donc. Et elle a trouvé faveur auprès de Boaz, un homme qui est en fait un parent. Et donc dans la tradition juive, il y a ce, le rachat. C'est-à-dire que si des gens avaient perdu, avaient tout perdu par mauvaise décision ou par circonstance, il y avait une possibilité après de racheter soit des biens ou alors pour des, par exemple des veuves, pour pouvoir continuer la, la famille, la lignée, le nom. C'était quelque chose de très important. Il y avait le frère ou il y avait un parent qui pouvait, qui devait se marier avec la, la, la veuve. Parce qu'en fait, la lignée, c'était était très importante chez les Juifs parce que le Messie allait sortir de, d'une de ces lignées, quoi. Donc, c'était, c'était très, très important de ne pas briser une, la lignée d'une, d'une famille. Donc, c'était quelque chose de très, très... qui, enfin, qui se vivait, quoi. Donc, voilà. Donc, Naomi dit à Ruth... Elle a rencontré donc Boaz. Boaz, c'est un parent qui pourrait donc racheter leurs biens et puis... aussi permettre à Ruth de, d'être épousée et que la lignée se continue. Et donc Naomi lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Donc on peut voir à travers de Naomi Dieu aussi qui nous parle et qui nous dit qu'il veut notre, qu'on soit dans le repos et qu'on soit heureux, quoi. Alors... c'est sûr que le mariage, c'est pas la solution. c'est vraiment une image, c'est pas la, la solution à nos besoins. Mais on sait que dans le Nouveau Testament, il est parlé de Christ comme notre époux et donc aussi comme notre rédempteur, celui qui nous rachète. Alors la rédemption, ça veut dire donc rachat, libération par le paiement d'une rançon. Délivrance de celui qui est en esclavage ou en prison pour dette. Donc, en fait, Boaz, en prenant Ruth, il va. C'est quand même un sacrifice de sa part parce que il va racheter les terres de Ruth. Et puis, lorsqu'ils auront un enfant avec. Avec Ruth, eh bien, ce sera la lignée en fait d'Élimélec qui va être suivie. C'est pas pour lui en fait qu'il le fait. Il va le faire pour que plus pour la famille de Naomi. Donc, on voit le ben, qui paye un prix quoi pour le faire. Et en même temps, ben Dieu bénisse cela parce que par la suite, il faut savoir que donc dans la généalogie, Ruth, Boaz. Eh bien, sont dans la lignée messianique de Jésus. Ils font partie des ascendants, des ancêtres. Et Boaz, c'est le fils de Rahab, qui était en fait une étrangère, une prostituée qui avait caché des espions à Jéricho. Donc, elle avait elle aussi discerné que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Et donc, elle est mentionnée dans la lignée, dans la généalogie de Jésus, et Ruth aussi. Ruth va avoir un enfant qui s'appelle Obed. Obed va avoir ensuite un enfant qui s'appelle Jessé, et Jessé va avoir David, le roi David. Donc, en fait, c'est toute cette lignée. Et donc, c'est beau de voir que dans la lignée de Jésus, il n'y a pas que exclusivement son peuple. Il y a tous les gens, en fait, qui ont reconnu l'Éternel comme leur Dieu. Donc, dans l'Ancien Testament, on voit cette image du rachat déjà. Bon, avant que les gens ne sortent d'Égypte, il y a cet agneau qui est sacrifié et les gens devaient mettre du sang sur la porte pour qu'ils soient épargnés. Lorsque l'ange de la mort arriverait en Égypte et tuerait tous les premiers-nés. Et donc ça parle du rachat. Ensuite, plus tard, les Israélites devaient payer un demi-cycle, je ne sais pas ce que ça représente financièrement, mais pour chaque être humain qui naissait, c'était un moyen de racheter. Job parle du rédempteur, que mon rédempteur est vivant. Donc cette idée qu'on a besoin d'être racheté, que quelque part, si on se présente devant Dieu tel que nous sommes, on ne fait pas le poids. Dieu est saint et parfait, et moi, je sais que je suis pécheur, et qu'est-ce qui peut faire que je puisse être accepté par lui? Eh bien, en fait, c'est parce que quelqu'un d'autre a payé pour toutes mes fautes, mes péchés. Et on sait que c'est Jésus-Christ sur la croix qui l'a fait parfaitement et pleinement. Donc dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 3, verset 24, il est parlé donc de la rédemption. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, de savoir que gratuitement on peut être justifié, donc rendu juste, dit juste. Voilà, Dieu dit de moi que je suis juste par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, en versant son sang, en se livrant, eh bien il a pris ma place, il a payé la dette de mon péché. Et simplement en croyant, eh bien je suis au bénéfice de ce salut et de cette réconciliation avec Dieu. Aussi dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18, il est parlé de cette rédemption merveilleuse. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or. Donc ça fait référence donc à l'Ancien Testament où on donnait justement cet argent pour acheter chaque être humain. Mais Dieu l'avait fait pour enseigner déjà son peuple. Et simplement, si les gens par la foi obéissaient à Dieu, eh bien ils étaient au bénéfice du salut de Dieu. Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Donc, on voit que c'est par la foi, en croyant en cette bonne nouvelle, qu'on peut accéder à ce repos de l'âme, ce premier repos qui est que je suis en paix avec Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on est appelé à expérimenter. Et puis ensuite, il est parlé de cette parole, de la parole de Dieu qui est vivante et éternelle et qui nous permet de vivre dans le repos, mais tous les jours, parce que cette parole nous nourrit et nous amène pour notre âme dans le repos. Toujours en parlant du repos, une idée primaire un peu du mot Shabbat qu'on avait dans Genèse 2:2, c'était de s'asseoir et de se tenir tranquille. Et ça va être la continuité un peu de ce que ce verset dit par rapport à la parole de Dieu. Parce que moi, tout de suite, ça m'a fait penser à Marthe et Marie dans les évangiles. Il y avait deux sœurs qui ont reçu Jésus dans leur maison. Et l'une d'entre elles, Marie, s'est assise au pied de Jésus et elle l'a écouté. Et Marthe, elle dit, le Seigneur est là, il faut que je fasse le repas, il faut que tout soit prêt et tout ça. Et donc, elle s'inquiétait. Et finalement, elle a explosé Jésus, tu vois, ma sœur, elle fait rien du tout, tu peux pas lui dire qu'elle m'aide un peu? Et Jésus, avec beaucoup de compassion, mais avec beaucoup d'autorité, dit Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Marie a choisi la bonne part. Ce qui était important, c'était d'écouter la parole de Dieu. Ce repos aussi pour notre âme, c'est celui de s'asseoir dans nos âmes et aussi physiquement, parce que parfois c'est vraiment nécessaire, et de se tenir tranquille et d'écouter la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va nous faire expérimenter ce repos que Dieu nous promet et veut pour nous. Donc ça, c'est dans Luc chapitre 38 à 42. Je l'ai un peu paraphrasé, l'histoire de Marthe et Marie. Et dans Matthieu 11, chapitre 28 à 30, Jésus dit lui-même, « Vous qui êtes fatigués, chargés, » c'est Marie de Mélodie qui a parlé de ça il n'y a pas longtemps. C'est très, très puissant, je trouve. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Et donc, prenez mon joug, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et recevez mes instructions. Le fait de recevoir les instructions de Dieu nous amène au repos. Et on peut vraiment serrer dans notre cœur que ces instructions de la part de Dieu viennent d'un cœur de Jésus qui est doux et humble de cœur. Et il est dit aussi que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est bon pour notre âme. Pas pour notre chair, parce qu'en fait, on peut dire qu'il y a deux parties en nous qui luttent. Notre chair, comment on peut expliquer la chair? C'est... le côté dépravé de l'être humain qui veut faire qu'à sa tête, qui veut pas suivre Dieu pour lui la parole de Dieu, pour cette partie de notre être, la parole de Dieu elle n'est pas intéressante, il s'y rebelle, mais il y a une autre partie en nous qui aspire justement aux choses de Dieu, c'est l'esprit qui est en nous. Donc penser avec la parole de Dieu vraiment nous donne le repos. Par contre, mal penser nous use et nous épuise. Parce qu'en fait, on n'est pas abreuvé à la bonne source. On pense pas de la bonne manière. On veut tout contrôler. On veut tout, alors qu'on n'a pas toute la connaissance. Et notre manière de penser est parfois erronée. Alors que Dieu lui connaît toutes choses. Et si on se remet à lui, on peut être guidé parfaitement. Dans 1 Pierre 5, 7, il nous est dit de jeter sur Jésus tous nos soucis. Il est dit, le terme c'est déposer, mais le terme en grec c'est vraiment, prenez le fardeau et jeter tous nos soucis. Et c'est un acte de foi, c'est parce qu'on a confiance en Dieu, on sait qu'il prend soin de nous, et donc on peut lui remettre nos soucis. On sait qu'il est bon, qu'il est doux et humble de cœur. Bien penser avec Dieu, c'est savoir que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Et je peux vous donner un verset que vous pouvez méditer dans Psaume 139 et verset 15. Il est dit, ça parle de notre création. J'ai été façonné. Tissé dans les liens secrets dans le ventre de ma mère. Et c'est comme une broderie, le terme d'être tissé. C'est mêler des couleurs, être habilement travaillé ou tissé. Dieu nous voit ainsi chacun d'entre nous. Si on n'a pas peut-être les standards de ce monde, au niveau beauté, au niveau mensuration, etc. Dieu c'est lui qui nous a fait dans le sein de notre mère. Et c'est un travail d'artiste. C'est vraiment une broderie. Et c'est comme ça qu'il nous voit. Donc, simplement, on médite chaque jour que que Dieu me voit comme ça, que je suis cette broderie qui habilement travaillée, habilement tissée par Dieu, eh bien, je peux être vraiment renouvelée et pas être abattue parce que ben je suis pas selon le standard de ce monde, quoi. Et même ceux qui ont le standard de ce monde, la plupart, hein, ils se voient comme un rien, quoi, parce qu'ils se comparent et parce qu'en fait, ils n'ont pas une image propre qui est vraiment construite en Dieu. Et un autre passage aussi à méditer, dans Éphésiens 2:10, il dit, pour ceux qui ont accepté Christ, il est dit que nous sommes son ouvrage. Et ça aussi, ça parle de broderie. Aussi, le terme, c'est poiema. Pour ceux qui connaissent la chorale de l'Église, c'est son nom. Ça veut dire œuvre, broderie, chef d'œuvre. Et donc, par la rédemption de Jésus-Christ, eh bien, on sait qu'il a préparé des œuvres pour nous. Et donc, ça peut nous mettre aussi dans le repos, dans le sens où on se dit, qu'est-ce que je dois faire demain et tout. Non, Dieu a préparé des choses pour moi, il l'a fait à l'avance. Et simplement, si je me confie en lui, eh bien, je vais rentrer dans ce que lui a préparé, puis ça va se faire par sa force. Il y a d'autres paroles dans la parole de Dieu, bien sûr, qui sont dures à entendre. Et comme je le disais, elles sont dures à entendre à cause de notre propre chair, de cette partie de notre être qui ne veut pas obéir à Dieu et qui l'apôtre Paul disait dans Romains 7, ce que je ne veux pas faire, je le fais dans les mauvaises choses, et ce que j'aimerais faire, c'est-à-dire le bien que je voudrais faire, eh ben je ne le fais pas. Et si chacun est honnête, on peut vraiment dire que même nos propres standards, on n'arrive pas à les atteindre. Et par cela, on peut vraiment réaliser ben, qu'on a un cœur pécheur et qui n'est pas, ouais, il est contre Dieu de nature. Et c'est par la foi, en fait, dans la bonté de Dieu et dans ce qu'il a fait, qu'on peut ne pas vivre dans notre chair, mais vivre dans l'esprit et dans ce que Dieu, dans la nouvelle nature que Dieu nous a donnée. Et dans Jean 6:60, il y avait des gens donc qui entendaient les paroles de Jésus. Et certains ont dit que ces paroles étaient trop dures à entendre, parce qu'en fait, ils ne mélangeaient pas la foi. Ça, ils se disaient, mais comment est-ce que moi, je pourrais accomplir ça? Mais plusieurs de ses disciples, en plus c'était quand même des disciples, hein, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Ensuite, verset 6:66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Donc même Jésus, parfois, il n'a pas été écouté, même. Mais ensuite, Jésus dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Il était quand même sûr de. Dans son être intérieur. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et donc, en fait, même si certaines paroles peuvent être dures, parce qu'en fait, on est repris par la parole de Dieu aussi, eh bien, on réalise que ce sont des paroles de la vie éternelle, en fait, comme Jésus. Comme Pierre l'a dit. Par exemple, dans Proverbes 29, 15 à 17, il y a un passage qui parle de la discipline. Et la discipline est importante pour nos propres vies, mais aussi pour celle de nos enfants. J'ai quelques petits thèmes comme ça qui sont un peu pour vous, pour que vous les méditiez. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Et ensuite, 17, châtie ton fils, il te donnera du repos, il procurera des délices à ton âme. Et donc, un parent qui ne discipline pas ses enfants, eh bien, il n'a pas de repos, en fait, parce qu'en fait, Dieu a donné des parents pour élever l'enfant, et le reprendre, et lui donner des limites, et l'amener après, bien sûr, à connaître Dieu. Ça, c'est le but principal. Mais donc, c'est juste un verset comme ça qui est peut-être bien aussi à méditer, que la discipline, je me rappelle plus dans quel verset où il est parlé de ça. En fait, ça sauve nos pensées. Et lorsqu'on on apporte une discipline dans nos enfants, eh ben ça sauve leurs pensées. Parce que la pensée de l'enfant, la pensée de l'être humain, c'est que naturellement, elle aille vers la folie, quoi. Et donc, le fait de poser des limites, l'enfant recherche ses limites. Et c'est salutaire. Et le dernier verset, peut-être à méditer, qui m'a fait du bien, qui au prime abord, hein, il l'est peut-être pas, mais c'est au sujet de la repentance, dans Proverbes 28 et verset 13. « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et c'est vrai que d'être transparent devant Dieu, la repentance, en fait, c'est changer de direction, c'est changer de pensée, c'est de... Ouais, d'être transparent devant Dieu, de ne rien lui cacher, c'est en fait salutaire, quoi. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un rituel comme on pourrait, comme celui de la pénitence où on va se flageller, mais c'est simplement un changement d'attitude, un changement de pensée, d'être d'accord avec les pensées de Dieu. Peut-être que aujourd'hui j'étais occupée, pas simplement par mes soucis, et j'étais simplement occupée par ma propre vie, et j'étais centrée sur moi-même. Eh bien, je confesse cela à Dieu, et je dis non, c'est pas ma vie, c'est pas ça. Simplement le fait d'être centrée sur moi-même, mais c'est que toi, tu es la première place, et que dans tout ce que je fais, eh bien, je veux te glorifier. Et c'est ce repos-là, c'est ce sabbat, cette célébration qu'on peut avoir ainsi dans nos cœurs. Pour conclure, donc on peut dire que le repos de Dieu ne consiste pas à une félicité béate et passive, ou simplement le fait de positiver, ça ne va pas nous amener dans le repos. Dans Hébreux chapitre 4 et verset 9, il nous est dit d'entrer dans le repos, mais en s'efforçant. Efforcez-vous d'entrer dans le repos. Donc il y a une action qui est pour ceux qui ne connaissent pas Christ comme le Sauveur, ben le fait de croire qu'il est mort pour nos péchés et de l'accepter comme Sauveur, c'est une démarche personnelle et qui doit simplement être faite enfin clairement, quoi. Et puis pour ceux qui le connaissent, eh bien s'efforcer dans le repos, eh bien, c'est savoir amener nos pensées captives à Christ, et puis voir si eh ben il n'y a pas des choses cachées qu'on n'a pas confessées à Dieu qui font que ben on ne prospère pas, parce que simplement notre manière de penser, notre manière de vivre n'est pas en accord avec Dieu. Et donc pour expérimenter le repos de Dieu, il faut laisser donc la place à Dieu comme il l'a voulu dès le début, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre volonté, et par la foi simplement, en nous nourrissant de la parole de Dieu qui est objective et éternelle.